parole du jour avec le Père Willem.
Qu'est-ce que la vérité ? C'est la suite de la rencontre de Jésus et de Ponce Pilate. Jésus est donc lui-même la vérité. Sa présence en tant que fils était la révélation de la vérité pour les hommes, non sa destinée comme organe séparé de connaissance et de savoir, mais de lui-même dans sa totalité, dans son essence, par son exemple, ses choix, sa manière d'agir dans le monde, sa personne représentait le point d'interférence où Dieu avait rencontré l'histoire en se faisant homme. Pour lui, voie vers le salut, vérité de Dieu et vie éternelle ne faisaient qu'un, car c'est ainsi qu'elles apparaissent dans l'Esprit de Dieu, comme le reflet unitaire de lui-même, mais perçu du point de vue des hommes et de l'homme Jésus. Cette unité s'articulait en si radiant dans l'histoire et n'était perceptible qu'à travers une pluralité de signes, ces trois mots dans lesquels de nombreux exégètes ont cru voir, à tort, semble-t-il, une anticipation de la Trinité, étaient ainsi tout à la fois distinctes et greffées l'un de l'autre. Le salut apparaissait comme un parcours vers la vérité dont la conquête menait à l'éternité. L'ancrage théologique que sous-tend ce trinôme, la qualité du rapport entre le Père et le Fils, se transformait en un enseignement pratique crucial, en un rappel simple et puissant à la fidélité à l'heure du détachement. Si vous voulez vous sauver, je ne dois plus quitter vos cœurs. La vérité et rien d'autre était la substance commune du Père et du Fils, et c'est cette vérité que Jésus prêchait, ou mieux, son reflet de l'histoire des hommes. « Je vous donne un commandement nouveau », avait-il affirmé juste avant, toujours selon Jean. « Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et de nouveau, pour conclure, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Une injonction réitérée stupéfiante qui dévoile la perception que Jésus avait de lui-même, témoin de la vérité en tant que la vérité est amour. Le Dieu qui, par l'intermédiaire de Jésus, entre dans l'histoire des hommes pour leur montrer la voie, est un Dieu d'amour. L'amour est pour lui la seule manière possible de s'incarner dans l'histoire. Si les hommes étaient capables de suivre jusqu'au bout son précepte, il n'y aurait nul besoin d'une puissance qui règle et retient dans l'attente du retour du Christ. Et le désordre du chaos ne risquerait pas de triompher, comme l'annonçaient les prédictions apocalyptiques. C'est le manque d'amour qui introduit dans l'histoire les déchirements du mal. Mais ce soir-là, à la veille de sa rencontre avec Pilate, Jésus avait ajouté une précision. « Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. » Sa mort imminente prenait ainsi la place d'un élément totalement inhérent en sa prédication, d'une donnée intrinsèque à son être témoin de la vérité. La mort, comme vérité ultime de l'amour, peu après, Jésus allait empêcher Pierre de sortir son épée pour le défendre. La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas, dit-il. Si la mort était pour Jésus une transfiguration de l'amour, elle devenait, de par cette même métamorphose, une mort nécessaire. Marc et Matthieu évoquent explicitement l'étonnement de Pilate face à l'attitude du prisonnier. Ce terme ne figure pas chez Jean. Mais, en un certain sens, tout son récit est une confirmation de la surprise grandissante du préfet romain qui, en pareille circonstance, n'aurait jamais adopté la ligne de conduite qui fut alors la sienne. C'est précisément cette stupeur qui provoquera le premier retournement de situation dans les heures suivantes. Bien évidemment, jusque-là, rien ne s'était déroulé comme Pilate l'avaient imaginé. Après ce que Hanne et Caïphe lui avaient raconté, il s'attendait à voir un exalté, un agitateur, un dangereux subversif, un rebelle. Mais ce qui venait de se produire était totalement inattendu. Lors de sa confrontation directe avec le prisonnier, la personnalité de Jésus avait dû lui paraître étonnamment forte et troublante. Il avait suffi qu'il lui parle pour que les accusations échafaudées par les prêtres, qu'il avait sans doute jamais totalement convaincu, s'écroulent comme un château de cartes. La crainte de se trouver impliquée dans un règlement de compte entre factions judaïques auxquelles le pouvoir romain avait intérêt à ne pas être mêlé était à présent presque une certitude. Il fallait à tout prix qu'il se tire de ce mauvais pas sans trop de dommages. La condamnation et la mort de Jésus avaient certainement été vécues par Ponce Pilate comme un fait significatif de son mandat en Judée, peut-être même comme quelque chose de plus. La figure de ce prédicateur fascinant et magnétique, ainsi que les émotions qu'il avait suscitées en lui, restèrent sans doute longtemps gravées dans son esprit. Il n'était pas si fréquent que l'ensemble des autorités sacerdotales de Jérusalem se mobilisent pour demander au pouvoir romain de procéder à une exécution capitale, sans compter la forte impression que Jésus avait sans doute laissée derrière lui. Rien ne pouvait augurer de l'importance sans égale de ce qui venait de se produire. La nouvelle religion commençait à peine son parcours à travers les premiers témoignages non encore fixés dans l'écriture des évangiles, mais nous n'avons aucune raison de suivre l'imagination antichrétienne féroce d'Anatole France lorsqu'il raconte que dans son grand âge, en dépit de ses efforts, Pilate ne se souvient même plus de cet épisode lointain. Il est donc très probable que le gouverneur ait aussitôt envoyé un rapport circonstancié à Tibère. Par ailleurs, au cours de cette période, Rome portait une attention particulière à la Judée et à sa religion. Pilate devait le savoir, et garder le silence avait dû lui paraître d'autant plus inopportun. Il avait surtout une autre bonne raison d'écrire à Tibère, prévenir une initiative possible des notables juifs qui avaient indirectement fait allusion à cette éventualité. Le préfet dut sans doute lui faire part de l'achèvement, de l'acharnement, disons, des prêtres juifs et expliquer que le supplice de Jésus était inévitable.